Nous allons commencer aujourd'hui une autre leçon sur un autre livre, celui des juges. Alors, comme on le fait d'habitude avec les autres livres, nous allons regarder un petit peu l'arrière-plan du livre, son but principal. On va examiner aussi le plan d'ensemble du livre, les thèmes majeurs qu'il y a dans ce livre, les personnages clés, les versets clés, Et aussi, nous allons regarder les leçons pour le peuple Dieu d'alors et le peuple Dieu, les leçons pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et nous allons regarder aussi la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre des juges. Alors, on va commencer par l'arrière-plan. Donc, l'auteur, selon la tradition juive, serait le prophète Samuel. Quant à la date, on croit que la partie centrale du livre, donc les chapitres 3 à 16, qui est consacré aux exploits des différents juges, couvre une période d'environ 3 siècles, d'Othniel à Élie. Les 300 ans du livre des juges vont de 1400 à 1100 avant Jésus-Christ. Pour ce qui est du cadre géographique, les événements du livre se déroulent dans la terre promise, qui est partiellement conquise, où les tribus d'Israël s'étaient installées. Maintenant, le livre des juges couvre la période qui va de la mort de Josué à la naissance de la monarchie israélite. À certains égards, le titre du livre est quelque peu trompeur pour des lecteurs modernes. Les juges ne sont pas exactement ce que nous appellerions aujourd'hui les juges. Ils sont en fait des chefs de guerre et des chefs de clan qui, périodiquement et en divers lieux, se lèvent du sein des tribus pour délivrer le peuple d'Israël des ennemis qui le menacent d'un côté ou d'un autre. Excusez. Le livre porte à de nombreux égards sur une relation. La relation entre Dieu et Israël. Un Père céleste qui aime son peuple n'abrogerait pas l'élection d'Israël puisqu'il s'est engagé de manière irrévocable à l'égard des descendants d'Abraham. Pourtant, comment un Dieu saint qui exige l'obéissance et la soumission de son peuple pourrait-il tolérer son péché et sa révolte permanente? Plusieurs des juges sont présentés comme des êtres humains profondément imparfaits, choisis pour délivrer un peuple profondément imparfait. Les lecteurs du livre apprennent que Dieu est patient et plein de compassion. Chaque lecteur ne peut éviter de voir le reflet de sa propre vie dans les personnages du récit. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est le but principal du livre. Le livre des juges est une longue narration avertissant tous les enfants de Dieu des dangers d'oublier les instructions de Dieu et d'agir comme les nations. Après que les tribus d'Israël se furent installées dans la terre promise, ils commencèrent un déclin moral et spirituel rapide. Ils furent très désobéissants, malgré leur engagement à être fidèles à Dieu, comme on le voit par exemple lorsqu'ils avaient dit dans Josué chapitre 24, versets 16 à 18, « Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. » Alors, même durant la période où ils furent rebelles à Dieu et où ils lui tournèrent le dos. Dieu leur manifesta de la miséricorde et de la compassion. Le Seigneur suscita des libérateurs, soit des juges, pour les délivrer de leurs oppresseurs. Le livre des juges offre également un regard théologique ou prophétique sur l'histoire du peuple de Dieu. Comme dans le livre de Josué, nous constatons le contraste entre la fidélité de Dieu versus l'infidélité et l'inconstance des hommes. Un de ses buts principaux est de démontrer le besoin pour des rois qui sauront s'assurer de la sécurité d'Israël, de les conduire à l'obéissance de sa loi et de promouvoir l'adoration pure de leur Seigneur. On va regarder maintenant le troisième point, soit le plan du livre. Alors, le livre se divise en trois grandes parties, qui se divisent comme suit. On pourrait appeler la première partie la détérioration du peuple. Ça va du verset 1 du chapitre 1 jusqu'au verset 4 du chapitre 3. La deuxième partie, on pourrait l'intituler la délivrance du peuple. Donc, du verset 5 du chapitre 3 aller jusqu'au verset 31 du chapitre 16. Et la troisième partie, qu'on pourrait appeler la dépravation du peuple, qui va du verset 1 du chapitre 17 jusqu'au verset 25 du chapitre 21. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail les trois divisions du texte. On pourrait dire que le thème du livre des juges, c'est vraiment l'échec à cause du compromis. Alors, comme on avait dit, la détérioration du peuple va du chapitre 1, verset 1, aller jusqu'au chapitre 3, verset 4. Et on pourrait l'intituler « La détérioration d'Israël ». Alors, quand on regarde l'ensemble des choses qu'il y a dans cette partie-là, il y a deux choses particulières. Donc, il y a l'échec de compléter la conquête telle que Dieu leur avait demandé. Et la deuxième idée, c'est vraiment le jugement de Dieu pour ne pas avoir complété la conquête. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail cette section-là, la première partie, l'échec de compléter la conquête. Donc, on se rappelle que Dieu leur avait demandé de compléter la conquête du pays qu'il leur donnait. Et en réalité, on voit qu'ils ont... Le résultat, ça a été un échec total. On voit, par exemple, sept échecs. L'échec de Juda, chapitre 1, verset 1 à 20. L'échec de Benjamin, chapitre 1, 21. L'échec des tribus de Joseph, chapitre 1, verset 22 à 29. L'échec de Zabulon, chapitre 1, verset 30. L'échec d'Aser, chapitre 1, verset 31 à 32. L'échec de Nephtali, le verset 33 du chapitre 1, et l'échec de Dan, donc les versets 34 à 36 du chapitre 1. Donc vraiment l'idée principale du chapitre 1, c'est vraiment l'échec des différentes tribus d'avoir complété la conquête telle que Dieu leur avait demandé. Le deuxième point de cette détérioration-là d'Israël, on voit que le Seigneur ne laisse pas les choses aller, mais qu'il juge. Dieu juge pour ne pas avoir complété la conquête. Donc ça va du chapitre 2, verset 1, aller jusqu'au chapitre 3, verset 4. Alors, on regarde les principales idées qu'il y a dans cette section-là. On voit, par exemple, l'ange qui annonce le jugement, chapitre 2, verset 1 à 5. On voit aussi la génération pieuse qui meurt. Donc, le chapitre 2, versets 6 à 10. Et on commence à voir le jugement de Dieu qui est décrit à partir du verset 11 jusqu'au verset 19 du chapitre 2. Et ensuite, on a l'ennemi qui est laissé comme un test. Autrement dit, le Seigneur, pour les tester, et il permet que l'ennemi soit maintenu et que ça donne une leçon au peuple de Dieu. Donc, on a ça à partir du verset 20 du chapitre 2 jusqu'au verset 4 du chapitre 3. Donc, vraiment, on reprend l'idée principale, la détérioration d'Israël, qui est divisée en deux parties, l'échec de compléter la conquête, 1-1 à 1-36, et deuxième partie de cette détérioration-là d'Israël, c'est le jugement de Dieu pour ne pas avoir complété la conquête qui va du tout le deuxième chapitre et jusqu'au verset 4 du chapitre 3. Maintenant, dans la deuxième partie du livre, on avait dit qu'il était divisé en trois parties. La deuxième partie va du verset 5 du chapitre 3 jusqu'au verset 31 du chapitre 16, qu'on pourrait intituler « La délivrance d'Israël ». Donc, on voit que Dieu permet que les ennemis, leurs ennemis, leur fassent la guerre et qu'ils les vainquent. Mais on voit aussi que le Seigneur accorde des délivrances d'une façon régulière, avec des juges, de façon très régulière aussi. Donc, la première chose qu'on remarque dans cette section-là, c'est ce qu'on pourrait appeler la campagne du Sud, du chapitre 3, verset 5 à 31. À l'intérieur de cette campagne du Sud-là, il y a trois juges qui nous sont présentés. Le juge Othniel, verset 5 à 11, le juge Ehud, verset 12 à 30, et le juge Shamgar, verset 31. Donc, après ça, on a une autre campagne, c'est la campagne du Nord, qu'on appelle les juges Déborah et Barak. Donc, Déborah et Barak sont appelés au chapitre 4, versets 1 à 11. Et on voit dans cette section-là que les Cananéens sont défaits. On a cette description-là à partir du verset 12 aller jusqu'au verset 24 du chapitre 4. Et on a, ça finit par le cantique de Déborah et de Barak, qui est tout le chapitre 5. Donc, on a eu la campagne du Sud, la campagne du Nord. Maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle la campagne centrale. Ça, c'est le chapitre 6, aller jusqu'au chapitre 10, au verset 5. Et à l'intérieur de ça, on nous décrit les quatre juges. Le juge Gédéon, 6, verset 1 à 8, 32. Le juge Abimélec, chapitre 8, verset 33, aller jusqu'au chapitre 9, verset 57. Ensuite, on a le juge Tola, qui est dans le chapitre 10, verset 1 et 2, et le juge Jaïr, chapitre 10, verset 3 à 5. Donc, trois campagnes, on est jusqu'à l'heure actuelle, campagne du Sud, campagne du Nord, campagne centrale. Et l'autre point, on va avoir la campagne de l'Est. Donc là, à ce moment-là, on va assister au juge Jephté, qui va du chapitre 10, verset 6, jusqu'au chapitre 12, verset 7. Et à l'intérieur de ça, les péchés d'Israël sont décrits, et aussi la délivrance qui est amenée par le juge Jephté. Autre section de cette partie-là, c'est la deuxième campagne du Nord, qui est dans le chapitre 12, verset 8 à 15. À l'intérieur de ça, il y a trois juges qui sont mentionnés avec leur histoire. Le juge Ibtsan, verset 8 à 10 du chapitre 12. Le juge Elon, verset 11 et 12 du chapitre 12. Et le juge Abdon, verset 13 à 15 du chapitre 12. Et on a aussi la campagne de l'Ouest, où là, on a la description du juge Samson, à partir du chapitre 13, aller jusqu'à la fin, chapitre 16-31. À l'intérieur de cette section-là, on a la naissance miraculeuse de Samson, chapitre 13, verset 1 à 25. On a le mariage dans le péché de Samson, chapitre 14, verset 1 à 20. Et ensuite, on a vraiment l'histoire de Samson comme juge, chapitre 15, verset 1 à 20. Et ça se termine par l'échec de Samson, chapitre 16, verset 1 à 31. Et comme on avait dit qu'il y avait trois parties, la troisième partie, on pourrait l'intituler « La dépravation d'Israël », qui va, c'est tout le chapitre 17, aller jusqu'au chapitre 21, 25. donc la dépravation d'Israël. Alors, pour avoir péché, de la même manière que les Cananéens du pays péchaient, on voit qu'il s'est produit trois choses. Leur échec à travers l'idolâtrie, chapitres 17 et 18. Donc, on a un exemple à l'intérieur de ça, un exemple d'idolâtrie personnelle, dans le chapitre 17. Et on a aussi un exemple d'idolâtrie tribale, donc toute une tribu, dans le chapitre 18. Deuxième idée qu'on voit dans cette division-là de dépravation d'Israël, c'est leur échec à travers l'immoralité. Donc, on a aussi un exemple d'immoralité personnelle, chapitre 19, verset 1 à 10, et aussi on a un exemple d'immoralité tribale, donc les chapitres 19, verset 11 à 30. Et troisième idée à l'intérieur de cette partie-là, c'est leur échec à travers la guerre civile entre les tribus. Donc on a vraiment la guerre entre Israël et la tribu de Dan, et on a aussi l'échec d'Israël après la guerre. Donc quand on regarde comme faux, on voit dans cette partie-là la dépravation d'Israël, leur échec à travers l'idolâtrie personnelle et tribale, leur échec à travers l'immoralité personnelle et tribale, et leur échec à travers la guerre civile entre les tribus. Quatrième chose qu'on peut remarquer dans le livre des juges, c'est qu'on peut voir qu'il y a un cycle qui se répète d'un juge à l'autre. Et le cycle est le suivant, qu'on pourrait dire qu'il est divisé en cinq, c'est comme un cercle qui tourne en rond. Et on va regarder comment ça s'articule. Alors on voit, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que les Israélites adoraient d'autres dieux. Donc ils faisaient de l'idolâtrie. Ça les amenait, Dieu permettait à des nations de les attaquer, les Israélites, et de les vaincre. Troisième chose, ça l'amenait le peuple à supplier Dieu de pardonner et de les secourir, qui amenait vers le quatrième point du cycle, c'est que Dieu suscitait un juge qui remportait la victoire sur l'ennemi, et le juge mourait, et le cycle recommençait. Alors quand on regarde l'ensemble, c'est vraiment ça. Les Israélites adore d'autres dieux, Dieu permet que des nations les attaquent et aient des victoires sur eux. Le peuple, eux, souffre et supplie Dieu de les pardonner et de les secourir. Dieu leur suscite un juge pour les libérer. Le juge meurt et ça recommence. Autrement dit, on dirait que le peuple n'apprend jamais. Alors c'est vraiment là-dedans, on a l'idée que le péché amène sa punition, mais que Dieu exerce sa justice et sa miséricorde, et que à travers ça, l'alliance de Dieu, il y a de la loyauté et de la déloyauté, et que la sainteté, il y a aussi à l'intérieur de toutes ces choses-là, la sainteté de Dieu et le jugement de Dieu. Et on voit aussi les problèmes qu'il y a, que toutes ces choses-là amenaient dans l'unité du peuple de Dieu. Et on voit aussi que trois péchés très graves amènent l'idolâtrie, l'immoralité et la guerre civile. Ce sont tous des thèmes qui sont récurrents à l'intérieur du livre des juges. Cinquième point qu'on va regarder, c'est les personnages clés. Alors, bien entendu, les personnages clés du livre des juges, c'est les juges eux-mêmes. Alors, on a nommé plusieurs. Othniel, Ehud, Shamgar, Déborah, Barak, Gédéon, Tola, Jaïr, Jephté, Ibtsan, Élon, Abdon, Samson, et aussi un autre libérateur qui s'appelait Abimélec. On pourrait bien entendu étudier le personnage de Mika et de son idolâtrie, et aussi le personnage du Lévite et de sa concubine infidèle qui provoqua la presque totale destruction de la tribu de Benjamin. C'est un livre très intéressant quand on s'y arrête puis on regarde les leçons morales que le Seigneur veut nous enseigner à travers tout le livre. Alors, les versets clés, c'est sûr qu'on pourrait, il y a plusieurs versets importants, mais on va en regarder trois. Donc, deux dans le livre des Juges lui-même et un autre dans le livre d'Hébreux. Donc, Juges 2, versets 11 à 16 comme versets clés. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. On voit vraiment le cycle que je vous ai parlé tout à l'heure qui est à l'intérieur de ces versets-là. Et on a aussi Juges, chapitre 21, verset 25, qui dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ensuite, on a le verset 32 du chapitre 11 du livre d'Hébreux. Donc, on a le jugement qu'on pourrait dire du Nouveau Testament sur les juges. Le verset 32 dit « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Très intéressant de voir que le Nouveau Testament fait référence encore à ces juges-là, que malgré leur manquement, leur péché, leur désobéissance, que Dieu avait quand même pitié et miséricorde et qu'il leur accordait de la délivrance malgré tout. Donc, on est rendu au septième point, donc les leçons pour le peuple de Dieu de cette époque-là. Donc, dans le livre des Juges, Dieu défie son peuple à être fidèle à son alliance. Leur rejet des instructions de Dieu, qui sont en réalité les enseignements de Moïse, résulta par l'oppression et un grand déclin moral et spirituel. Cependant, Dieu continua d'exercer sur eux de la miséricorde en leur envoyant des libérateurs. Alors, si on avait une leçon à tirer pour nous, peuple d'aujourd'hui, en lisant ce même livre, on pourrait dire que c'est la suivante. Dieu nous défie aussi à lui être fidèle. Le mal augmente autour de nous et parfois très rapidement. Il faut nous rappeler que nous avons un constant besoin de lui et de sa miséricorde. On a par exemple 1 Corinthiens chapitre 10 versets 11 à 13. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et huitième et dernier point, on a vraiment la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre des juges. Alors, les juges apportèrent des délivrances au peuple de Dieu au moment et où ils en eurent besoin. Jésus est la solution finale au problème du péché, de l'oppression, de la souffrance et du mal. Son œuvre est définitive et finale, même si nous attendons par la foi l'accomplissement final des promesses de Dieu. Alors, on va regarder trois applications qu'on peut mettre dans nos vies par l'étude du livre des juges et sa méditation. La première application, prions avec ferveur pour des grâces prévenantes afin d'éviter les péchés mentionnés dans le livre des juges. Demeurons proches du Seigneur en utilisant avec une grande abondance tous les moyens de grâce qu'il a mis à notre disposition. Parmi ceux-là, bien entendu, il y a la prière individuelle, familiale, de couple ou en église. Un autre moyen, bien sûr, d'assister régulièrement à nos assemblées. Un autre moyen, l'exécution fidèle de tous nos devoirs envers les Saintes Écritures, qui sont des lire, des écouter, des étudier, des mémoriser et aussi des méditer. Autre moyen, l'évangélisation régulière. Autre moyen, l'obéissance aux ordonnances du baptême et du repas du Seigneur. L'adoration quotidienne qu'on fait dans nos cultes personnels. La discipline, les offrandes, l'exercice de nos dons spirituels, la communion fraternelle et le service du prochain. Deuxième application, implorons l'Éternel de nous sonder et de nous montrer tout ce qui ne va pas dans nos vies. La mondanité, que ce soit des formes subtiles d'idolâtrie, que ce soit des habitudes charnelles, ou que ce soit des péchés non confessés, ou que ce soit, par exemple, des manques de pardon dans nos vies, etc. Alors, implorons l'Éternel de nous sonder, de nous montrer tout ce qui ne va pas dans nos vies. Troisièmement, louons le Seigneur pour sa patience et son infinie miséricorde pour nos manquements, pour nos échecs et pour nos infidélités. Rendons-lui grâce de nous corriger lorsque nous nous éloignons de lui. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré pour sa bonté et aussi pour sa sévérité. Que son Saint-Nom soit exalté à tout jamais. Amen.